À quoi sert la recherche universitaire en histoire de l'art? Comment expliquer toutes ces heures passées à la bibliothèque? Pourquoi étudions-nous des aspects si spécifiques comme le nombril de Saint-Sébastien?
Pour notre premier épisode intitulé « Art et Instagram, repenser les identités de genre », nous avons invité Virginie Brunet-Asselin et Fanny Patry à échanger sur leur sujet de recherche et à nous partager leurs réflexions sur la discipline de l'histoire de l'art.
Mon nom est Pascal Tremblay. Voici Annexe.
Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous de votre parcours en tant qu'étudiante au cycle supérieur. Question de situer nos auditeurs et auditrices, que diriez-vous de débuter par une brève présentation? Tiens, commençons d'abord avec toi, Virginie.
Mon nom est Virginie Brunet-Asselin. Je suis présentement étudiante en première année de maîtrise en histoire de l'art avec mémoire à l'Université Laval à Québec. Puis mon projet de recherche va porter sur le travail de deux jeunes artistes canadiennes de la relève qui s'illustrent grandement sur les réseaux sociaux. Donc Petra Collins qui est photographe et l'artiste peintre figurative et sculptrice Chloe Wise. Donc, toutes deux ont moins de 30 ans et Collins est originaire de Toronto, tandis que Wise est originaire de Montréal. Bon, à ce stade-ci de mon mémoire, j'envisage plutôt de traiter des réseaux sociaux, comment ils ont une influence sur la pratique artistique de mes artistes, puis en quoi ils constituent un moyen de promotion aussi de leur art. Plus précisément, là, je vais examiner en quoi les valeurs, les enjeux, les tendances, puis les préoccupations actuelles qui sont véhiculées par les réseaux sociaux influencent aussi leur pratique artistique.
Et si on se tourne vers toi, Fanny?
Oui, bonjour, bien, merci pour l'invitation d'abord. Moi, c'est un peu différent. Je suis plus en histoire de l'art, mais j'ai fait mon bac et ma maîtrise en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Puis maintenant, je suis en troisième année de doctorat en communication à Concordia. J'étudie les espaces, les communautés, en fait, d'entraide et de support pour les femmes vivant avec des troubles de santé mentale qui se forment principalement sur Instagram. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est en fait comment cette communauté mobilise et opère l'image digitale dans une perspective de prendre soin de soi. Donc, je m'intéresse vraiment à cette manipulation de l'image digitale, les pratiques comme commenter, faire des captures d'écran, envoyer des images à ses amis ou à soi-même des fois. Donc, je m'intéresse vraiment à ces habitudes qu'on développe avec, qui sont en train de se développer, en fait, avec les nouvelles technologies, puis qui sont vraiment de l'ordre de l'intime et du quotidien.
Qu'est-ce qui t'a amené après ça à choisir cette discipline-là qui est les communications pour ton doctorat, mm-hmm. mais qui reste quand même liée?
Oui, c'est ça. Ben, en fait, je m'intéresse encore à la question de l'image puis de la culture visuelle qui est vraiment au centre de ma recherche. Donc, c'est sûr que pour moi, l'histoire de l'art fait encore partie des canons que j'utilise, si on peut dire ça. Puis en fait, c'est ça, j'ai fait mon bac, ma maîtrise à la même université, dans le même programme. Donc déjà pour le doctorat, je cherchais à sortir un peu de ma zone de confort pour voir la recherche, aborder la recherche de façon différente. Puis pour moi, en fait, je suis allée vraiment avec les sujets qui étaient abordés par les différents départements qui m'intéressaient, puis le département de communication. C'est le département, en fait, qui m'intéressait le plus. Puis c'est vraiment plus une question de sujet puis de comment est-ce que les choses étaient abordées que vraiment de discipline, parce que pour moi, maintenant, qu'on soit en histoire de l'art ou en com, c'est sûr qu'au niveau de l'historiographie et tout, c'est un peu différent. Il y a certains canons aussi qui changent, mais je pense que quand on aborde des questions comme les réseaux sociaux, il y a vraiment des coupures, en fait. Il y a vraiment des intersections entre les disciplines. Puis c'est ça, moi, je voyais plus ça comme une façon d'ouvrir mes horizons et non comme un changement total de discipline. Pour moi, l'histoire de l'art est encore et fait encore partie de ma recherche. Puis je pense que ça apporte définitivement un point de vue différent, mm-hmm. de si j'avais fait juste un parcours en com, par exemple.
Oui, ça enrichit quand même
tout à fait.
Nos angles d'approche
tout
aussi.
Tout à fait, oui.
Et pour toi, Virginie, comme je sais que tu es quand même plus au début de ton processus d'études, dans le fond, je me questionne sur qu'est-ce qui crée l'étincelle là, qui fait qu'on se dit, OK, c'est cette chose-là que je veux creuser pendant 2 ans, 3 ans, si on est un peu plus... Ben, j'allais dire lent dans le processus, là, mais c'est pas ça du tout. Là. Quelque chose sur lequel on va focusser pendant comme une bonne période quand même de temps. Là.
Moi, ça a été sincèrement assez difficile de m'arrêter sur une période fixe de l'histoire de l'art pour mes recherches. Mm-hmm. J'étais passionnée par toutes les périodes de l'histoire de l'art. Mais ce qui m'a vraiment convaincue à me lancer dans l'art actuel, en fait, c'est mon professeur, puis qui est aujourd'hui mon directeur de maîtrise, Maxime Coulombe, qui est un excellent pédagogue et qui abordait l'art contemporain et actuel en me donnant vraiment des outils d'interprétation, de compréhension théorique, puis approfondir, puis essayer de comprendre la société dans laquelle je vis.
Oui, bien justement, Fanny, je te renvoie à la question aussi, mais par rapport au choix de la période historique. Mm-hmm. Donc, toutes les deux, vous approchez, vous étudiez surtout l'art, l'histoire de l'art, mais actuel, contemporain. Mm-hmm. Est-ce que tu considères que le fait d'avoir choisi cette période-là en particulier, ça peut être un défi supplémentaire?
Bien, c'est sûr que en ce qui concerne ma maîtrise en histoire de l'art, moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne m'intéresse pas vraiment aux artistes. Mm-hmm. Ce qui est quand même, ce qui est souvent le cas en histoire de l'art, c'est qu'on a souvent des gens qui vont travailler sur une œuvre ou un artiste. Moi, je travaille vraiment plus sur la culture visuelle de façon plus large. Puis en fait, pour moi, comme l'histoire de l'art, c'est la culture visuelle. Puis c'est pour ça que ça m'a toujours intéressée. Puis c'est ça, en ce qui concerne mon mémoire, par exemple, moi, je l'ai fait sur une image qui a circulé massivement dans les nouvelles à partir des réseaux sociaux en 2009, pendant la Révolution verte en Iran, qui était en fait la première révolution où les gens ont utilisé les réseaux sociaux pour non seulement se mobiliser, mais aussi pour partager des images de la répression policière. Il y avait des manifestations, en fait, pour contester les élections qui auraient été truquées par le gouvernement, donc les gens ont mobilisé les réseaux sociaux. Tout ça pour dire que, en fait, je m'intéresse aux images, puis j'ai analysé ces images-là à partir d'outils de l'histoire de l'art. Donc, en fait, c'est pas vraiment un challenge de travailler sur la culture visuelle contemporaine, parce qu'au contraire, j'utilise les outils de l'histoire de l'art, qui sont des outils qui ont été bâtis de façon plutôt historique et linéaire, pour comprendre, en fait, nos images contemporaine. Donc, pour mon mémoire, j'ai utilisé l'orientalisme, puis pour ma thèse de doctorat, j'utilise un peu le même processus, mais là, je me concentre plus sur comment la santé mentale, en fait, a été non seulement représentée de façon, a été non seulement visualisée, mais aussi genrée. Donc, comment est-ce que la culture visuelle a permis de construire une certaine vision de la santé mentale. Donc, en fait, pour moi, c'est plus le contraire. C'est comme l'histoire de l'art est justement mon outil pour déchiffrer la culture contemporaine. J'ai pas l'impression que j'ai un manque d'informations. En fait, j'en ai trop des fois. Mm-hmm.
Mais c'est ça, je trouve qu'il y a cet aspect-là qui est fascinant de la discipline, justement, en histoire de l'art, parce qu'il y a cette idée-là d'histoire, mm-hmm, et cette idée-là d'art aussi dans les deux. Puis moi, c'est toujours ce que j'ai trouvé le plus fascinant, c'était d'arriver à comprendre et à saisir justement les images qui étaient utilisées pour nous donner accès, mm-hmm, à ces événements-là, mm-hmm, peut-être même devenir un petit peu plus critique, mm-hmm, de ce qui nous est partagé en termes d'images, de canons, d'arriver à décortiquer un peu plus. Quand on fait des études de cycle supérieur aussi, veut pas, il faut qu'on arrive à saisir des textes, qu'on arrive à analyser ce qui nous est donné aussi comme information. Donc, on développe des capacités d'analyse, de compréhension qui devient utile, mmh, après. Hein.
Tout à fait.
On s'entend que peut-être ce concept de fake news et de déformation, détournement de l'image, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens un peu plus outillée à attaquer ce genre.
Tout à fait.
Mmh. Vraiment.
Mmh. Oui. Justement, par rapport à ce que des études en histoire de l'art peuvent nous apporter concrètement, comment vous pourriez dire que vos études supérieures vous amènent à être des citoyennes plus avertis ou qu'est-ce que ça peut, comment ça peut vous nourrir?
Oui, je peux répondre. Oui, famille, mais je pense que tu l'as déjà un petit peu, tu as déjà un peu répondu à la question en disant que justement l'histoire de l'art nous donne des outils pour analyser et comprendre le monde qui nous entoure, les images. Puis je pense que en ce moment, on ne peut pas non plus faire abstraction du fait qu'on vit dans un monde d'images qui circulent de façon qui sont de plus en plus abondantes, en fait. Donc, c'est sûr que pour moi, l'histoire de l'art, ça a été clé dans la manière dont je comprends les choses. Je le vois définitivement dans mes interactions de tous les jours, comment ça peut éclairer certaines discussions. Puis en ce qui concerne la question de genre, c'est sûr que c'est pas juste l'histoire de l'art qui aborde la question de la représentation de la femme en communication, c'est très abordé également, mais surtout d'un point de vue de la représentation, ce qui est aussi le cas en histoire de l'art. Mais je trouve que ce qui est intéressant en histoire de l'art, c'est que on part vraiment de beaucoup plus loin en fait que la com, parce que veut pas la communication, c'est ça commence avec l'écriture. Puis les représentations viennent quand même assez tardivement, alors que en histoire de l'art, ben on a toutes les périodes reliées qui sont de l'Antiquité jusqu'à maintenant, en fait. Donc c'est comme une période beaucoup plus large. Puis aussi toute la question de la pratique artistique aussi, qui est abordée depuis assez longtemps, qui est aussi intéressante. Puis moi, je m'étais pas tant attardée dans ma maîtrise, mais avec le doctorat, je me rends compte que j'y retourne en parlant de pratique, en fait, de pratique de l'image, qui est aussi une question présente en communication, mais qui est venue beaucoup plus tardivement qu'en histoire de l'art. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Que c'est pas juste la représentation. En fait, on parle beaucoup de représentation, mais pour moi, c'est un peu limité, parce qu'en fait, les pratiques, c'est tout aussi important. Puis je pense que toi aussi, tu as des artistes, Virginie, qui sont dans la pratique.
Oui, tout à fait.
Et pas juste la représentation. Donc, moi, je pense qu'il y a comme des choses qui sont présentes dans la manière dont on fait les choses, qui nous apportent une information supplémentaire, en fait, sur le monde dans lequel on vit.
Bien justement, par rapport à cet élément-là, Virginie, j'aimerais, par rapport aux artistes que tu as mentionnés tout à l'heure, Chloé Weiss et Petra Collins, t'apportais une idée, un point de vue qui était vraiment intéressant par rapport à la représentation. Comment travaillent ces deux artistes-là, justement, en lien avec... Est-ce que tu peux juste apporter un peu plus d'éléments?
Oui, tout à fait. Mais en fait, pour répondre un peu à la question que vous avez posée précédemment, là, ma formation en histoire de l'art me sert aussi énormément à interpréter leurs œuvres, puis les enjeux qu'elles abordent, notamment le féminisme, qui est très important dans leur pratique, qui est une revendication importante de l'actualité là, également. Par exemple, Wise utilise beaucoup dans ses œuvres des canons de la représentation des femmes tirées de la grande histoire de l'art. Par exemple, ses œuvres sont très figuratives, elles vont beaucoup s'inspirer de Vermeer, de Manet, puis de Caravage dans la représentation. Mais elle utilise cette esthétique-là, puis ces codes de représentation-là de la femme pour dénoncer justement l'objectivation de la femme. Donc, c'est vraiment se réapproprier les clichés, les stéréotypes de la représentation de la femme pour faire une dénonciation. Puis c'est ça, sans avoir ma formation en histoire de l'art, ça serait difficile de voir toute la profondeur de ses œuvres, en fait.
Parce que dans le fond, tu m'expliquais aussi que ton premier contact avec l'artiste, c'était pas nécessairement dans un cadre qu'on pourrait qualifier de traditionnel là, ou d'institutionnel même. Là. C'est pas à travers une exposition muséale, c'est pas à travers non plus une présentation en galerie. Donc toi, t'as vraiment été mis en contact avec sa pratique par le biais des réseaux sociaux.
Exactement. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé mes deux artistes qui font l'objet de ma maîtrise. Et c'est ça, c'est vraiment par les réseaux sociaux beaucoup qu'elles ont été propulsées, justement. Elles doivent beaucoup à ce mode de communication de l'art-là. Puis je pense que c'est important de se pencher sur l'impact qu'ont les réseaux sociaux, non seulement dans nos vies, dans nos rapports interpersonnels, mais aussi sur l'art en général. C'est très vaste, là. C'est un outil de promotion de l'art aujourd'hui. C'est aussi un endroit où se forment de nouveaux réseaux d'artistes. On abolit les frontières, là, de langue ou géographique, puis plein d'artistes se retrouvent là, puis s'inter-influencent. Puis c'est un lieu où elles peuvent exprimer leur personnalité artistique, puis aussi présenter leur processus de création à travers, justement, là, par exemple, les stories Instagram, ce qui est quelque chose d'assez inédit, je crois, dans le monde de l'art, là, de vraiment pouvoir documenter jour après jour là, avec leur base de fans, disons, mm-hmm. de followers, mm-hmm. l'évolution de leur pratique.
Oui, donc là, on est rendu avec un contact, justement, avec un public qui est plus concret, plus direct peut-être même, mm-hmm. que quand on est dans un giron de White Cube, mm-hmm. où des fois, donc il y a le côté un peu intimidant ou un peu comme élitiste qui est lié malheureusement trop souvent à l'art contemporain ou l'art actuel qui est, il y a une frontière là, qui est abattue là, quand on mm-hmm. mais quand on pense à cette idée d'utilisation des réseaux sociaux parce que là bon on parle bien sûr de pratiques artistiques mais si on y va d'un côté un peu plus large un peu plus axé sur l'idée de surconsommation d'images est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine perte de... Je ne saurais pas trop comment le dire, mais est-ce que vous pensez que les pratiques artistiques ou les artistes peuvent se perdre à travers cette surproduction d'images qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux?
Je peux répondre.
Oui, Fanny, j'écoute.
Oui, ben moi, c'est pas... En fait, j'ai de la misère un peu avec ce genre de discours comme « attention aux réseaux sociaux » ou par exemple, en lien avec mon sujet, c'est souvent... les réseaux sociaux créent des troubles de santé mentale mm-hmm. ou des troubles liés à l'apparence, ce genre de discours, en fait. Puis en fait, le truc, c'est que souvent, c'est des femmes qui sont au centre de ces préoccupations. On parle souvent de problèmes de santé mentale chez les jeunes filles qui vont surconsommer, par exemple, certaines célébrités sur Instagram ou qui vont prendre trop de photos d'elles-mêmes. Ou, donc, c'est vraiment, on tend à pathologiser, mm-hmm. si ça se dit en français, pathologize, les jeunes femmes, en fait. Puis ça va de soi aussi pour les personnes queer ou les personnes racisées. C'est souvent les personnes en situation de minoritaire, en fait, qui sont, dont les comportements médiatiques tend d'être perçus comme ça, comme étant problématiques. Mm-hmm. Donc, pour moi, je pense que, justement, il faut reprendre un peu ce discours-là, puis... et c'est justement là que l'histoire de l'art devient importante aussi. On revient à l'autre question. C'est que ça nous permet, justement, d'avoir un regard plus critique par rapport à notre propre consommation de l'image. Puis aussi, tout est dans notre connaissance, en fait, puis dans notre perception de ce qu'on fait. C'est sûr que si on ne nous a jamais sensibilisés à la représentation de la femme ou à la manière dont la femme est objectifiée dans les médias, on ne sera jamais critique par rapport à notre propre représentation de soi, par exemple. Mais si on a plus de discussions par rapport à ces sujets, si on en parle plus dans les écoles, par exemple, puis qu'on emmène les images, même au niveau du secondaire, du primaire, si on en parle. Moi, je pense que c'est là, en fait, qu'il y a la différence. Puis il faut arrêter de présenter les gens comme étant juste comme des éponges qui vont recevoir ce que les médias leur donnent et au contraire, leur donner les outils pour les consommer, en fait. Mm-hmm. Je pense que ça revient un peu à ça pour les artistes également. Tout est dans l'utilisation qu'on en fait.
Mm-hmm. Mais puis, tu me parlais aussi de communauté de self-care qui oui. s'organisait par le biais de ces réseaux-là.
Oui, exactement.
Donc, est-ce que tu peux justement apporter un peu plus d'éléments par rapport à...
Oui, ben moi, c'est mon sujet, en fait, de doctorat. Donc, je m'intéresse vraiment à ces espaces, à l'utilisation qu'on en fait. Puis, je pense que c'est important aussi de montrer ce côté-là des réseaux sociaux. Parce que si on fait juste en parler de façon... négative ou en faisant juste en disant que c'est des outils de surveillance, de contrôle, de censure. On fait juste en fait montrer ou présenter les gens, les utilisateurs comme n'ayant aucune agentivité en fait dans ces dans cette utilisation des réseaux sociaux. Donc moi j'essaie de comme tourner un peu les choses puis montrer oui, mais malgré ces dynamiques de pouvoir, il y a aussi des réseaux qui se créent, des personnes qui partagent, qui s'entraident, malgré ces formes de contrôle. Puis en fait, les réseaux sociaux, c'est comme la société, en fait. Est-ce qu'on va s'arrêter de faire des choses parce qu'on le sait qu'il y a des caméras dans la rue ou que, par exemple, je sais pas, qu'on est surveillé de certaines manières? Est-ce qu'on s'arrête de se mobiliser ou de critiquer à cause de ça? Non. Puis moi, je vois un peu les espaces web de la même façon. Donc, tout est une façon de tout est une question de perspective, puis comment on décide d'en parler, en fait. Tout en étant conscient, en fait, des dynamiques de pouvoir, des problématiques, mais c'est aussi une porte d'entrée vers des communautés, puis aussi des choses qu'on verrait pas autrement, mm-hmm. qui se seraient jamais manifestées.
Ouais, je pense aussi que les réseaux sociaux, c'est un nouveau lieu important, là, un peu comme tu le dis, mais de revendications mm-hmm. politiques, idéologiques, de toutes sortes. Pour plusieurs mouvements, LGBTQ+, le mouvement MeToo est parti sur les réseaux sociaux également. Puis notamment, je sais que toi, tu étudies un petit peu les pratiques de dessinatrice, je crois.
Oui. L'illustration, oui, oui, là, en général, ouais.
Oui, c'est ça, qui crée des safe spaces. Ou
essayent, en tout cas. Je...
Oui.
Moi, je ne parle pas de safe space parce que je ne considère pas que quand n'importe qui peut entrer dans l'espace, c'est un safe space. C'est aussi un terme qui a tellement de contradictions et tout. Mais oui, c'est ça, c'est les illustratrices, en fait, qui utilisent leur art et mm-hmm. Instagram pour créer ces espaces.
Ouais. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est aussi pour le body positivism.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Il y a plusieurs mm-hmm. mouvements qui rentrent dans les réseaux mm-hmm. sociaux. Puis par exemple, moi, mon artiste, Petra Collins, expose toutes ses œuvres sur sa page Instagram. Mais... Puis une série qu'elle a fait puis qu'elle publie, c'est 24 Hour Psycho, où elle représente plusieurs femmes... qui sont en état de détresse psychologique, en plan rapproché. Puis ça, c'est en fait pour déstigmatiser la santé mentale. Puis c'est pour aussi libérer les femmes de stéréotypes qui sont liés à elles par rapport aux femmes sensibles, émotives, mm-hmm. vulnérables. Puis aller plus loin là, avec ça.
C'est vraiment intéressant. Moi aussi, oui. En fait, mes illustratrices abordent... Ben, mes illustratrices, j'ai même pas encore choisi qui va faire partie de mon corpus, là, donc je devrais pas dire ça. Mais les illustratrices qui m'intéressent abordent aussi la question des femmes et des émotions, mais pas juste les femmes, là. C'est surtout des espaces comme féministes, queer. C'est ça, donc femmes... personnes s'identifiant comme femmes, mm-hmm. mais aussi toute personne qui, en fait, dont les émotions tendent à être problématiques ou être vues comme problématiques dans la société. En fait, c'est tout un travail autour de ça. Puis c'est ça, justement. Puis pour revenir sur le fait aussi qu'il y a tellement de communautés, moi, je choisis de travailler sur la communauté de santé mentale, mais il y en a tellement sur Instagram. Puis Instagram est d'ailleurs une des plateformes les moins étudiées dans le domaine des communications. Mm-hmm. Puis je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il y a beaucoup de monde en histoire de l'art qui décide de s'y attarder parce qu'en fait, c'est une des plateformes les plus visuelles puis les plus populaires, en fait. Donc, pourquoi moi, une de mes questions initiales pour mon projet, c'était pourquoi, en fait, on décide d'aller sur Instagram et pas une autre plateforme? Pourquoi l'image plutôt que... chez un groupe Facebook. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que ça fait aussi, qu'est-ce qui est différent dans ce genre de pratique? Parce qu'il y a des communautés de santé mentale sur Facebook, il y a des groupes Facebook, mais ça s'articule de façon complètement différente. L'image n'est pas au centre, ça va être surtout du texte. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment, en fait, les choses s'articulent de façon différente autour de l'image. Puis c'est là que l'histoire de l'art devient tellement utile pour comprendre ça. J'ai pas de réponse à ma question parce que je suis encore comme en plein dedans.
Mais l'image peut susciter des émotions.
Oui, de toute façon, tout à fait, la question de l'affect.
Je pense que ça, c'est oui. important.
Oui, mais c'est là qu'on voit tout le pouvoir évocateur, justement, mm-hmm. d'une image.
Oui, tout à fait.
Quand on est sur mm-hmm. ce type de réseau-là. Mais on a abordé, je trouve, des questions intéressantes par rapport à l'idée d'être femme, les problématiques de santé mentale, mm-hmm. l'idée des communautés, du self-care. Je suis désolée, je n'ai pas la traduction française qui me vient à l'esprit rapidement. Mais dans un contexte
si on ramène ça au contexte d'études, dans, au cycle supérieur, mm-hmm. justement, si on, on ramène ça dans vos réalités à vous, pas nécessairement seulement par rapport aux artistes que vous étudiez, que vous approchez, cette considération-là, il me semble qu'elle est importante aussi, non? C'est pour avoir fait une maîtrise et me questionner sur est-ce que je fais un doctorat ou pas, il y a beaucoup, moi, cette question-là de pression, de durée aussi, liée à embarquer dans un projet d'études supérieures. Vous, qui êtes dedans, comment vous le vivez?
Moi, je crois qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup quand on traite des études supérieures, c'est la question de l'isolement. C'est beaucoup de temps à écrire, à faire des recherches, et donc beaucoup de temps en solitaire. Donc, c'est important, moi, je crois, pour briser l'isolement, là, de se retrouver avec, justement, comme on fait en ce moment, là, des personnes qui vivent la même réalité que nous. Donc, qui font des études comme nous au cycle supérieur, puis partager sur notre expérience, se donner des conseils, vraiment s'entraider. C'est vraiment important. Par exemple, moi, à mon université, on se retrouve toutes les deux semaines, toutes les étudiantes en art contemporain, là, avec le même directeur de maîtrise. Puis, on traite de l'avancement de nos sujets. On se donne du feedback, là, en bon français, sur nos projets. Puis, on s'encourage aussi par rapport à nos projets à l'extérieur de l'université également. Donc, ça vient vraiment briser l'isolement, puis je pense que c'est important.
Mais c'est ça, l'idée de s'impliquer dans des projets extérieurs au cheminement académique, ça, est-ce que c'est important, essentiel, vous considérez, pour même avoir peut-être une autre approche, d'autres éléments pour nourrir la recherche? Ou bien c'est bien d'être comme que dans une espèce de cocon où on est plus focussé sur notre sujet?
Ben, je pense vraiment que oui, c'est important, puis ça ouvre les horizons là aussi. Peut-être que juste rester dans le milieu académique, ça donne pas une bonne idée de l'état actuel de l'art. Puis c'est ça, l'état de la culture, puis c'est bon d'aller chercher des expériences dans des institutions autres ou de faire des articles pour des revues, c'est ça, je pense que c'est important aussi. Puis ça aide également là, à sortir de l'université, puis ça fait toujours un peu de bien de se retrouver avec d'autres personnes, là,
Des gens normaux.
Des gens normaux.
Non, mais oui, mais je suis d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment important. Ou juste comme avoir des projets qui nous animent, qui ne sont pas nécessairement de l'ordre, ou même des passe-temps. Mm-hmm. Parce qu'on a le droit d'avoir... en fait, moi, je trouve que ce qui est le plus dur, c'est consolider famille et travail. Là. Ou genre vie, et plus, je dirais plus vie et travail. Mm-hmm. Parce que je n'ai pas vraiment de famille. Mais comme... non, mais je veux dire, je n'ai pas d'enfant ni rien. Mais moi, ce que je trouve vraiment dur, c'est de m'accorder une fin de semaine. De me dire stop le soir. De ne pas culpabiliser si je décide de ne pas travailler. Donc, comme le premier conseil que je dirais, c'est comme prenez des fins de semaine. C'est vraiment important. Puis c'est aussi important, justement, d'avoir des projets à l'extérieur, juste pour comme... relativiser que comme la maîtrise puis le doctorat, c'est pas tout. Puis qu'en fait, les théories, c'est pas si important. Comme, je veux dire, non, mais c'est plate à dire.
C'est
mais
juste
que,
une partie de la vie parmi tant d'autres.
C'est ça, puis c'est pas parce que comme t'as pas compris telle théorie ou t'as pas lu tel texte que comme t'es moins valide ou que t'es moins importante. Je pense que c'est... En tout cas, moi, un de mes gros stress, c'est justement que j'ai jamais assez lu, que je sais pas assez, que ça aide vraiment à relativiser, de faire des choses à l'extérieur, que ce soit un passe-temps, que ce soit un projet. Mais aussi s'impliquer dans l'université, moi, je trouve que ça aide aussi de juste structurer ta vie. Ça aide à structurer, en fait, tes journées. Puis à te dire stop aussi.
Oui, mais ça, je vous dirais, c'est un conseil à conserver, même quand vous allez tomber dans le milieu professionnel après. Parce que si vous continuez à progresser dans le milieu de l'histoire de l'art ou de la culture, sachez que vos projets vont vous amener aussi à avoir, si exemple, vous faites du commissariat d'exposition, à travailler constamment. Vous rêvez à vos plans d'expo, vous réfléchissez à vos textes de commissaire constamment. Donc ça, c'est un très bon conseil, Fanny, que je vais appliquer. à partir de maintenant.
J'espère. C'est plus facile d'en parler que de le mettre en pratique, mm-hmm. mais oui. Tout à fait. Je trouve que c'est vraiment un bon conseil que je me répète souvent.
Mais ça, quand on commence à y réfléchir puis à commencer à l'intégrer déjà à la maîtrise, après ça, peut-être que ça commence à plus prendre forme au doctorat, puis vous allez être plus préparé quand vous allez arriver dans le milieu professionnel à avoir été. Est-ce que vous auriez un élément, un conseil ou un cri du cœur que vous aimeriez partager avec nos auditeurs ou auditrices, que ce soit par rapport à la discipline de l'histoire de l'art, que ce soit par rapport à l'idée justement des études au cycle supérieur ou complètement personnel?
Mais moi, j'aurais quelque chose peut-être comme lié avec mon sujet, puis les cycles supérieurs. Mais un truc que j'ai réalisé, c'est comme une thématique qui m'intéresse dans le cadre de mon projet, c'est comment en fait vivre dans des situations d'impasse ou des situations où en fait on soit parce qu'on vit de l'anxiété, soit parce que on vit des traumas, ou aussi juste parce qu'on se sent coincé dans une certaine situation. En fait, comment est-ce qu'on existe dans ces moments-là où on est juste comme « qui suis-je? Que faire? » Puis ça arrive souvent, en fait, dans le cadre de la recherche et des cycles supérieurs. Puis c'est vraiment important de juste accepter ces moments-là. Puis en fait, ça fait vraiment partie du processus. Moi, en ce moment, je suis dans un moment d'impasse dans ma recherche. C'est pas un gros moment, mais en fait, c'est juste comme des petites embûches, puis on se demande comment on va les surmonter, mais en fait, quand on regarde avec la perspective, on se rend compte que c'est tellement essentiel, ces moments-là. C'est ces moments-là où on essaie de défaire les nœuds, puis qu'on essaie de comprendre les choses, qu'on arrive vraiment au cœur de notre recherche. Donc, de juste pas avoir peur de ces moments-là, puis de les accepter.
Mm-hmm. C'est des moments de remise en question, de changement.
Oui, c'est ça, mm-hmm. exactement. C'est ça qui fait que la recherche avance. Il ne faut pas avoir peur de ces moments-là. Il faut les accepter puis les accueillir à bras ouverts.
J'adore. Et toi, Virginie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Mais moi, je dirais aux gens de peut-être voir les réseaux sociaux, puis notamment Instagram, comme peut-être une porte d'entrée pour commencer à s'intéresser à l'art. Tu sais, des fois, les gens ont peur des institutions muséales, croient pas nécessairement qu'ils ont les clés de compréhension pour comprendre les œuvres. Mais des fois, Instagram peut apporter une variété d'œuvres d'artistes sur Instagram que vous pouvez suivre, puis qui peuvent vous allumer quelque chose chez vous, un intérêt pour l'art. Donc, je dirais ça.
Mm-hmm. Donc, d'utiliser Instagram comme une première étape
oui,
de sensibilisation.
Pourquoi pas?
N'ayez pas peur de l'art.
non, c'est pas n'ayez pas peur de l'art, mais...
Alors ouais. Ici, on sent que ce cri du cœur est unanime. On est toutes d'accord avec ça. Alors, je vous remercie beaucoup, Virginie,
merci.
Fanny, d'avoir accepté de vous prêter au jeu.
Merci.
Et je vous remercie d'avoir été aussi disponible et de vous être lancé un peu sans filet pour ce premier épisode. Alors, je vous souhaite bonne poursuite dans votre cheminement.
Merci.
Et maintenant qu'on a échangé nos coordonnées, si vous vous retrouvez dans une impasse, n'hésitez pas à m'écrire ou m'appeler. Moi, ça va me faire plaisir
oui,
de
moi
vous
aussi.
Écouter.
Oui, moi aussi, j'adore parler de ces sujets.
Oui, je pense que c'est ça aussi, hein, se créer une petite communauté autour de nous, être bien entourée. Alors, je vous souhaite une belle journée, les filles. Merci encore.
Merci.